Radio Okapi.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Au sommaire de ce journal, au moins 210 corps ont été découverts dans trois fosses communes dans la ville d'Ouvira, chef-lieu provisoire du Sud-Kivu. Jean-Jacques Pourouzi, le gouverneur du Sud-Kivu qui livre cette information, affirme avoir fait cette découverte macabre trois jours après le retour de l'administration provinciale dans cette ville. Incident malheureux survenu au centre d'encadrement et d'instruction du service national de Kanyamakacc. Le communiqué du service national parle de l'implication d'un élément des forces de sécurité et de jeunes bâtisseurs en formation, tandis que l'administrateur du territoire de Kanyama parle d'un désaccord entre les autorités du service national et les jeunes bâtisseurs qui a dégénéré. La criminalité à Kinshasa devient de plus en plus inquiétante. Les enlèvements, les arrestations, les tueries, ça et là, le vol à main armée et les braquages. Ce regain de la criminalité urbaine en RDC a été au centre du débat entre les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier jeudi. Vous les suivrez tour à tour au micro de Jean-Marc Matouaki. Encore une fois, bonjour à tous. Au moins 210 corps ont été découverts dans trois fosses communes dans la ville d'Ouvira, chef-lieu provisoire du Sud-Kivu. Jean-Jacques Pourouzi a livré ces chiffres ce jeudi lors d'un briefing de presse avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe. Il indique avoir fait cette découverte macabre trois jours après le retour de l'administration provinciale dans cette ville. Jean-Jacques Pourouzi au micro de Radio Okapi.
Deux jours après avoir rentré à Ouvira, nous avons découvert d'abord trois fosses communes. Une fosse commune à Kavimvira, une autre fosse commune à Kilomoni et une autre fosse commune à Kimanga. Les trois fosses communes contenaient 210 corps. Vous pouvez imaginer maintenant, c'est l'Organisation internationale Human Rights Watch qui est passée parce que nous avons mobilisé les acteurs nationaux et internationaux. Nous remercions d'ailleurs au passage le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a donné des experts, légistes, des inspecteurs de police judiciaire, des officiers de police judiciaire militaires et civils, qui sont en train de mener des investigations. Bon, alors vous imaginez, Human Rights Watch vient détecter plus de 61 fosses communes, c'est-à-dire dans Ouvira ville et dans les environs, dans trois seules communes, et donc dans ces zones, comme enfin, là où ils occupent, eh bien on peut s'imaginer un carnage terrible. Et nous demandons encore une fois à la communauté internationale vraiment d'apporter la même importance aux crimes graves qui sont commis par ces ennemis.
Ces chiffres corroborent le rapport de Human Rights Watch, alors que le ministre de la Communication et Médias annonce une enquête pour établir les responsabilités après ces massacres. Secteur humanitaire à présent, des milliers de personnes ayant fui les violences des groupes armés vivent dans des conditions des plus précaires en Ituri. Il s'agit spécialement des déplacés de Chomia et Mbala dans les territoires de Djougou. Ils se sont exprimés lors de la visite de l'assistant directeur exécutif du programme alimentaire mondial en mission de 48 heures sur place. Ces personnes crient notamment au manque d'assistance humanitaire. C'est pourquoi ils appellent désormais à des solutions durables pour quitter le camp et reconstruire leur vie. Reportage Jean-Claude Lokidile.
Après plusieurs années passées dans des sites, les déplacés dénoncent des conditions de vie devenues intenables, marquées par le manque d'assistance humanitaire. Ces familles souhaitent aujourd'hui soit retourner dans leur village, soit être intégrées dans des communautés d'accueil avec un appui en moyens de subsistance ou en formation professionnelle. Une option soutenue par les autorités locales, Innocent Badi, chef du village de Mbala.
Maman qui doit... C'est maman que vous voyez là-bas, tous ces jeunes que vous voyez là-bas, ils ont de la potentialité de développer des activités qui vont les servir à se prendre en charge dans l'avenir.
De son côté, le PAM évoque un changement d'approche lié à la baisse de financement pour l'aide d'urgence. Malgré ces contraintes, l'organisation promet de poursuivre son appui tout en favorisant l'autonomie des bénéficiaires. Matthew Hollingworth, assistant directeur exécutif du PAM à Rome. Siège de cette institution.
Nous allons continuer à fournir l'assistance alimentaire d'urgence. De la même façon, nous voulons avoir également une vision claire de comment les aider à pouvoir s'aider elles-mêmes sans être dépendants de l'aide alimentaire ou de l'aide humanitaire.
no longer dependent on our assistance.
Un défi de taille dans un contexte où l'insécurité continue de compliquer le retour à une vie normale. De retour d'Mbala, Jean-Claude Loki, d'Ile Radio Okapi.
Parlons de tous les accords signés entre la RDC et le Rwanda pour résoudre la question de l'Est de la RDC avec cette contribution du Centre d'études pour l'action sociale. CEPAS recommande aux députés nationaux un regard profond et une analyse rigoureuse des accords de Washington avant leur ratification au Parlement programmée dans le calendrier de la session de mars 2026. C'est ce qui ressort de la journée des réflexions organisées hier jeudi à Kinshasa. Échange consacré sur l'analyse économique, sécuritaire, juridique et politique des accords de Washington. Pour les chefs du secteur de recherche et animation socio-politique du CEPAS, la question en rapport avec l'accès aux minerais congolais par les entreprises américaines doit s'aligner sur les codes miniers en vigueur. Les propos du père Rigobert Minani ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Nous avions voulu revisiter toutes les analyses pour lancer un certain nombre de pistes de réflexion à soumettre aux parlementaires pour qu'ils puissent ratifier en toute connaissance les accords qui ont été signés. Nous leur avons dit de pouvoir regarder l'accord à travers quatre axes principalement. La question sécuritaire, parce que l'accord était supposé ramener la sécurité à RDC et depuis lors, on voit bien que les choses n'ont pas changé qualitativement. La paix n'est pas revenue et donc il est important qu'ils revisitent cette question-là de très près. Le deuxième point, c'était l'axe politique, c'est de voir en quelle mesure cet accord favorise la cohésion nationale et aussi la promotion de la démocratie et la gouvernance en RDC. Nous avons demandé au niveau juridique de questionner un certain nombre de dispositifs dans l'accord qui demandent la révisitation d'un certain nombre de dispositifs légaux en RDC, dont les questions de fiscalité, les questions de la constitution et autres. Et enfin, nous avions demandé au niveau économique que l'on puisse voir de très près les questions de fiscalité et de facilité que l'on donnerait aux parties prenantes.
Mais globalement, les chercheurs pense quoi de l'applicabilité de cet accord?
L'applicabilité, ça va être très très difficile. La preuve, c'est qu'on l'a signé depuis plus de 6 mois et la paix n'est pas revenue. L'applicabilité, ça va être très très compliqué.
Parlons à présent de cette alerte sanitaire urgente lancée par le gouvernement congolais. Alerte relative à des risques d'irradiation et de contamination radioactive signalés sur les sites de la société minière KCC à Kolwezi. C'était au cours du Conseil des ministres du 27 mars dernier. Attention, souligne le gouvernement, cette situation pourrait entraîner des conséquences graves pour la santé des populations et pour l'environnement. La ministre de la Recherche scientifique et innovation rassure, des mesures appropriées devraient être prises, dit-elle. Le point avec Paul Mounanga.
Ces produits radioactifs sont signalés dans la zone du Ramblé T17, un site qui se trouve dans les permis d'exploitation de l'entreprise minière KCC dans la province du Lualaba. Le gouvernement alerte sur des conséquences graves qui pourrait découler de ces produits radioactifs, c'est notamment l'exposition des travailleurs et des riverains à des radiations dangereuses, l'apparition des maladies graves à moyen et long terme, la contamination durable des sols, des cours d'eau et de la chaîne alimentaire, ainsi que des atteintes profondes à la faune et à la flore. Signalons que depuis le 23 mars dernier, le gouvernement avait déclaré ce site en situation d'urgence radiologique. La ministre des Recherches scientifiques et innovation avait annoncé l'imminence de la prise des mesures pour sécuriser les sites et protéger les populations et l'environnement. Professeur Dr Marie-Thérèse Sombo.
L'intervention d'experts qualifiés, le déploiement d'équipes spécialisées sur le terrain, ainsi que la mise en place des dispositifs de protection, de décontamination et de surveillance continue. La rapidité d'intervention, la rigueur scientifique et la coordination interinstitutionnelle demeurent essentielles pour prévenir toute aggravation de la situation et garantir la résilience de notre pays face à cette crise.
Lubumbashi, Paul Mounanga, Radio Okapi.
Et puis cette sonnette d'alarme est tirée par la population de Kiwanja, cette fois dans le Nord Kivu. Et pour cause, les produits vivriers en provenance de la zone agricole du groupement des Binza sont devenus rares sur les marchés locaux. À la base, l'effondrement depuis 6 jours du pont Gwenda sur la route Kiwanja-Ishasha dans le territoire de Rutshuru. Situation qui affecte les secteurs économiques locaux. Bernardine Diambou, reportage.
Selon plusieurs sources locales, la traversée de la rivière Nguenda est devenu un véritable casse-tête. Des véhicules sont contraints de décharger et recharger les produits vivriers ou de l'aide humanitaire de part et d'autre de la rivière. Ce pont, capital pour cette zone, relie les groupements de Bukoma et Binza. L'axe routier Kiwanja-Nyamilima permet aux agriculteurs d'évacuer leurs produits vivriers vers les centres de consommation. Déjà, les petits commerçants de Kiwanja déplorent la rareté de certains produits vivriers en provenance du groupement de Binza. Témoignage de cette vendeuse de farine de manioc.
Nous manquons de farine de manioc. Les cossettes de manioc provenaient de Nyabanira, Kisharo, Nyamilima en passant par ces ponts. Mais dommage que nous ne sommes plus approvisionnés à cause de l'effondrement du pont. Aujourd'hui, nous vendons de la farine de manioc en provenance de Kibirizi et le prix a été revu à la hausse. Nous demandons la réhabilitation de ces ponts pour nous approvisionner en farine de manioc en provenance de la zone de Kisharo.
En attendant une solution, les jeunes du village de Nguenda ont installé des planches pour permettre les passages de piétons. Mais ces derniers font payer pour transporter les marchandises, une pratique qui pèse sur les usagers routiers. Rappelons que ce pont a été emporté par les eaux de pluie il y a une semaine. Goma, Bernardine Diambou, Radio Okapi.
Encore un SOS. Celui-ci provient des habitants de la commune de Lancélé, ici à Kinshasa. Une érosion continue de faire des ravages au quartier Mpassa 1 sur l'avenue Yango. Cette catastrophe naturelle de grande ampleur menace la sécurité des habitants depuis plusieurs années. Ce phénomène, qui se poursuit depuis plus de 5 ans, a déjà causé d'importants dégâts matériels, notamment la destruction de plusieurs habitations. Face à cette situation critique, les habitants lancent un cri d'alarme aux autorités. Ils appellent à une intervention urgente afin de stopper l'avancée de l'érosion en vue d'éviter le pire. Reportage signé Nancia Tambo.
En passe à 1, dans la commune de Lancélé, la situation devient de plus en plus préoccupante. Des familles entières vivent aujourd'hui dans la peur, certaines ayant déjà tout perdu. Les habitants interpellent les autorités compétentes pour une intervention urgente.
Nous avons un problème sérieux. L'érosion a commencé depuis longtemps. Une partie des maisons sont déjà parties. Nous vous demandons de nous aider parce que si ça continue comme ça, on risque de perdre toutes les maisons.
Sur les terrains, les traces de destruction sont visibles. Maisons effondrées, terrains grignotés, routes fragilisées. L'érosion continue de progresser et menace chaque jour de nouvelles habitations. Les résidents impuissants redoutent qu'un drame survienne si rien ne fait rapidement. Le bourgmestre de la commune affirme être déjà rendu sur le site et indique qu'un rapport a été transmis aux instances supérieures en vue d'identifier une solution durable.
L'année 2024-2025, j'ai effectué pas mal de descentes là-bas à qui j'ai fait aussi rapport à qui les autres ont fait les suivis.
En attendant des actions concrètes, les habitants de Mpassa 1 continuent de vivre sous les menaces permanentes de cette érosion. Ils espèrent que les promesses faites seront suivies de fait dans le plus bref délai afin d'éviter des disparitions d'autres maisons et de préserver des vies humaines.
Une délégation des aviateurs de la République unie de la Tanzanie depuis hier jeudi à Kindu. Sa mission, concrétiser la ligne aérienne Tanzanie-Kindu. Un partenariat qui réjouit les opérateurs économiques regroupés au sein de la Fédération des entreprises du Congo qui avouent évacuer difficilement leurs marchandises. Écoutez un membre de la FEC Maniema exprimer sa joie. Amissi Hachimou est au micro de Florence Kizalunga.
La FEC est très contente de voir cette délégation de quitter Tanzanie jusqu'à arriver au Maniema. En tout cas, c'est une joie pour la FEC. Pour rappel, une délégation de la province du Maniema était quittée de Kindu jusqu'à Dar es Salaam pour rencontrer les partenaires aviateurs de la République unie de la Tanzanie. Maintenant, leur présence à Kindu, en tout cas, ça nous fortifie, nous, comme opérateurs économiques qui ont des difficultés dans leurs affaires. Parce que nous sommes bloqués avec nos marchandises. Leur présence à Kindu montre que c'est le début de concrétisation de notre partenariat. Vraiment, ça serait une bonne chose si nous aboutissons à un bon résultat parce que nous, opérateurs économiques du Maniema, nous souffrons beaucoup. Ce que nous entendons d'avoir un vol de Dar es Salaam jusqu'à Kindu, en tout cas, ça va nous réjouir. Ça ne sera pas seulement pour notre profit, ça sera pour le profit de toute la population du Maniema. La population du Maniema entend ce vol pour permettre à ce que la province soit désenclavée. Nous souffrons beaucoup et avec ce vol-là, je sais que la population du Maniema sera contente et apaisée.
Actualité internationale.
En Ouganda, 4 enfants, 3 garçons et une petite fille ont été poignardés à mort dans une école maternelle de Kampala ce mercredi 2 avril 2026. Une dizaine d'autres enfants ont été blessés. un suspect lynché par la foule a été arrêté. Au Bénin, la campagne pour l'élection présidentielle prévue le 12 avril prochain a été lancée il y a une semaine. Les deux candidats, Paul Ongpe et Romuald Ouadagné, qui portent les couleurs du camp du président sortant Patrice Talon, placent les sujets de la sécurité au cœur de leur programme, notamment en ce qui concerne la réponse à la menace sécuritaire liée aux attaques terroristes dans le nord du pays.
L'invité.
La criminalité à Kinshasa, siège des institutions de la République démocratique du Congo, devient de plus en plus inquiétant. Les enlèvements, les arrestations, les tueries ça et là, le vol à main armée et le braquage, ajouté à cela, le phénomène Kuluna. Ce regain de la criminalité urbaine en RDC a été au centre du débat entre les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier jeudi. On les écoute au micro de Jean-Marc Matouaki.
Monsieur Jeff Lushima, vous êtes le conseiller du pôle juridique chargé des questions du banditisme urbain et juridique du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières. Comment expliquez-vous justement ces regains de la criminalité urbaine dans quelques grandes villes du pays, notamment Kinshasa?
Le regain de la criminalité, il faut le dire que la criminalité c'est toujours un phénomène qui est lié à la société. Si elle peut refaire surface, certainement à un moment donné, c'est parce que la crise peut être aussi accentuée. Le chômage et certains citoyens qui sont inciviques, qui veulent s'adonner à cette pratique-là. Mais est-il que, pour le cas de Kinshasa spécialement, il y a quand même des éléments qui signalent cette présence-là, entre autres, le recrutement qui a été fait récemment au sein de l'armée pose un petit problème. Deuxième de chose, c'est qu'il y a tous les creuseurs mineurs qui étaient dans des sites vers Mbujima et autres ailleurs, aujourd'hui se sont retrouvés dans les centres-villes sans travail. Et troisièmement, ce sont ces mêmes habitués là, les récidivistes dont c'est comme ça que vous avez vu dans cette réunion de lundi, il y a eu la présence du Conseil supérieur de la magistrature, parce que très souvent le parquet civil, je dis pas le parquet militaire, le parquet civil a du mal à attacher dans la chaîne pénale les criminels que nous arrêtons nuitamment sans qu'il y ait des victimes, à les juger comme dans une association de malfaiteurs ou comme de bandits. Donc c'est un petit problème là qui fait que on devait quand même s'accorder avec les trois ministres pour que nous puissions accentuer l'action du gouvernement. C'est sur demande du président de la République.
Nous allons maintenant nous tourner du côté de M. Ngoï Kasangi. Vous êtes sénateur, élu des Mbujimayi et ancien gouverneur du Kasaï oriental. Comment vous comprenez le regain d'insécurité dans quelques grandes villes de la République démocratique du Congo?
La criminalité sévit dans les grandes villes à travers le monde. Donc c'est propice à la criminalité. Mais l'État est doté de la puissance publique pour en faire face. Alors s'il y a défaillance quelque part, parce que la première mission de l'État, c'est de protéger les personnes et leurs biens. Sécuriser, protéger les personnes et leurs biens. Alors quand ça faillit quelque part, vous voyez ce qu'on appelle les décrudescences, vous voyez ce qu'on appelle le Kuluna, vous voyez tout ce que nous vivons actuellement dans les grandes villes. Donc ce que veut dire en quelque sorte défaillance de l'autorité de l'État, l'absence de l'autorité de l'État. Alors il faut également noter que aucune mesure ne peut réussir si on n'y associe pas le peuple. Donc le peuple lui-même peut être le premier renseignant, le premier informateur. Si on réunit le Conseil supérieur de la magistrature et autres sans associer le peuple, eh ben, ça ne marchera pas. Parce que les criminels vivent avec le peuple, ils vivent dans le peuple.
Monsieur Oscar Chamba, criminologue et enseignant à l'école doctorale de criminologie de l'Université de Kinshasa. Monsieur Chamba, quelle est votre analyse sur cette situation?
J'ai toujours été mal à l'aise lorsque vous parlez de la criminalité. Parce qu'il faut d'abord comprendre c'est quoi la criminalité. La criminalité comme un ensemble d'infractions commises sur un territoire et à une période bien définie. C'est-à-dire que nous pouvons parler de toutes les infractions. Heureusement, vous parlez du braquage. Braquage comme forme de vol aggravé à Kinshasa. Je m'en vais d'abord circonscrire les formes des braquages à Kinshasa. Parce qu'il y a des braquages des rues. C'est-à-dire qu'on attaque les piétons, on confisque leurs téléphones, argent et etc. encore. Et ces braquages sont commis souvent par des jeunes en bande. Il y a un braquage aussi domiciliaire. c'est-à-dire que l'intrusion dans les maisons la nuit ou la journée, parfois avec séquestration des occupants. Une autre forme de braquage, c'est le braquage commercial, où on attaque les boutiques, les pharmacies, stations, services, on cible même les petits commerçants. Et enfin, le braquage de véhicules, donc on attaque des taxibus, des taxis-motos ou les particuliers et vole à main armée en circulation. Déjà, vous conviendrez avec moi que ces différentes formes de braquage nécessitent une forme particulière de prise en charge. Chaque braquage correspond à une prise en charge ou nécessite une prise en charge particulière.
Vous pouvez suivre cette émission Dialogue entre Congolais sur toutes nos plateformes numériques ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net. Et voilà qui met fin à notre journal du matin, préparé pour vous par Lievin Mbwinga-Vubu et mis en onde par Alain Goy. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.